Merci pour toutes ces nouvelles informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Les frontières africaines sont au cœur de notre rendez-vous aujourd'hui. Nous en parlons avec notre invité, un expert, le géographe et diplomate Michel Fouché, qui vient d'écrire « Frontières d'Afrique pour en finir avec le mythe » au CNRS édition. Dans un instant, nous partirons d'ailleurs pour l'Afrique, justement, destination le Nigeria, entre autres.
RFI.
Mais Michel Fouché, dans notre voyage, arrêtons-nous d'abord un court instant en France avec l'élargissement du décret sur les entreprises jugées stratégiques qui permet à l'État de s'opposer à la prise de contrôle d'une entreprise dans de nouveaux domaines désormais. Après la défense et la sécurité, il s'agit maintenant de l'eau, la santé, l'énergie, les transports et les télécommunications. Comment cette décision a-t-elle été reçue à Bruxelles? Réponse jeudi de Pierre Benazé.
Contrairement aux attentes de ceux qui voyaient dans le décret français un accroc au marché unique européen, la Commission n'a émis aucune condamnation de principe, aucune fin de non-recevoir. On en est même loin, puisque le commissaire chargé du marché unique a même rappelé qu'il préconisait un observatoire européen des investissements étrangers pour les secteurs stratégiques. Michel Barnier.
L'objectif de protéger des intérêts essentiels ou stratégiques dans chaque État membre est légitime, dès l'instant où il s'agit de la sécurité et de l'ordre public. C'est clairement prévu dans le traité et c'est une des limites possibles au principe de la libre circulation des capitaux. Ayant dit cela, nous devons vérifier si ce principe de défense de l'ordre public ou de la sécurité est justifié et appliqué de manière proportionnée.
La Commission européenne doit maintenant s'assurer que le décret français ne fait pas courir un risque de protectionnisme. Ce serait le cas s'il ouvrait la voie à la nécessité d'une autorisation nationale à chaque fois qu'une entreprise doit être cédée.
L'actualité française, ce sont les conclusions d'une enquête judiciaire sur le crash du vol Rio-Paris d'Air France en 2009. 228 victimes, il faut le rappeler. La responsabilité de l'équipage serait engagée, selon les experts. Mercredi, Air France a déposé un recours en nullité, estimant que cette contre-expertise a été conduite, je cite, de manière unilatérale et non contradictoire.
Sept jours en France.
Tout autre chose maintenant, et je sais que cela va vous intéresser, Michel Fouché. L'ouverture du Festival de Cannes, mercredi, 67e du nom, un peu de paillettes ne nuit pas. Sébastien Gédor.
Mesdames et messieurs, le maître de cérémonie de la 67e soirée d'ouverture du Festival de Cannes, Lambert Wilson.
Lambert Wilson a dédié la cérémonie à la mémoire d'Alain René, dont il était un des acteurs fétiches, et à Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, qui aurait eu 100 ans cette année, avant de citer le poète Robert Desnos.
Ce que nous demandons au cinéma, c'est ce que l'amour et la vie nous refusent, le mystère et le miracle. Place au miracle!
Le maître de cérémonie s'est ensuite offert le luxe de quelques pas de danse avec l'actrice australienne Nicole Kidman. Plus solennel, le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, couronné aux Oscars pour Gravity, et l'actrice Chiara Mastroianni ont prononcé la formule rituelle.
Buenas noches. Es mi honor declarar la 67ª edición del Festival Internacional de Cannes inaugurada.
Bonsoir. C'est un honneur de déclarer ouverte la 67e édition du Festival international du film de Cannes.
Et comme Lambert Wilson est un ténor, et comme c'était l'anniversaire de Tim Ross au générique de Grâce de Monaco, et de Sofia Coppola, membre du jury, tout s'est terminé en chanson.
Happy birthday, dear Sophie and Tim.
Fanny Renard, Sébastien Gédor, Cannes, RFI.
Happy birthday to you.
Une semaine d'actualité en compagnie de Michel Fouché, qui avait semblé particulièrement intéressé par le Festival de Cannes. Je pense que vous êtes cinéphile, mais il y a une autre raison à cet intérêt.
Oui, c'est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté dans une autre vie, mais c'est au cœur de l'influence française. C'est quoi la différence entre Cannes et la Californie, Los Angeles, Hollywood? Les Américains exportent des films, ils n'ont pas de festival. Nous, on importe, c'est Cannes. Donc c'est une référence mondiale parce que c'est l'ouverture. On est dans autre chose que le simple marché. Et c'est pour ça qu'on fait référence.
C'est un festival.
Les Chinois commencent à le comprendre.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils en ont déjà deux, oui, tout à fait. Non, l'influence est dans l'ouverture. Et là, Cannes est une excellente démonstration, je dirais, au-delà des paillettes et du tapis rouge.
Alors, il faut dire un mot d'ailleurs de cet atlas de l'influence française au XXIe siècle que vous avez dirigé, qui a été publié en octobre dernier,
chez 2013. Robert Laffont, Institut français.
Voilà, qui rencontre un grand succès d'ailleurs.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Il
faut se dépêcher parce qu'il est bientôt épuisé.
Et qu'avez-vous voulu montrer avec cet atlas, Michel Fouché? Atlas, hein, c'est-à-dire carte.
Combattre le déclinisme ambiant, d'abord parce que c'est désespérant, et
certes,
puis parce qu'on finit par y croire, et puis ensuite c'est pas vrai. Il y a des faiblesses, naturellement, beaucoup de faiblesses, mais nous avons une emprise dans le monde, il y a des attentes. Il y a des points forts, hein, notamment dans les domaines scientifiques, techniques, les questions de santé, d'urbanisme, d'architecture, sans compter évidemment les éléments beaucoup plus fondamentaux que sont la langue, la pensée, la culture, l'économie et notre rôle au Conseil de sécurité. Et j'espère d'ailleurs que les mesures de protection des secteurs stratégiques ne seront pas systématiquement appliquées dans les pays en dehors de l'Union européenne où la France a pris des positions sur leur secteur stratégique. Parce que si on appliquait ça partout, il y aurait des problèmes pour nos propres entreprises. Cette dimension-là, à mon avis, n'est pas suffisamment prise en compte.
Vous voulez dire que cette loi, ce décret pourrait se retourner contre les entreprises?
Non, mais si tous les pays émergents prenaient les mêmes mesures, je ne sais pas ce qui se passerait avec Veolia, GDF Suez ou d'autres, hein, qui voudraient nationaliser en quelque sorte leur secteur.
Alors parlons des frontières africaines, puisque nous allons bientôt partir pour l'Afrique, partir pour le Nigeria notamment. Pour en finir avec un mythe, je reviens sur cette notion de mythe tenace. Les frontières africaines dessinées par le colonisateur seraient à l'origine de bien des maux.
Oui, c'est une idée qui se met en place dans les années 30 ou 40 et qui est reprise ensuite par certains sociologues comme Ballandier,
Georges Ballandier,
qui sont dans la ligne anticolonialiste. Si vous prenez Nigeria-Cameroun, qui sert actuellement de zone de passage pour des mouvements aux méthodes terroristes, ou des pilleurs, ou des preneurs d'otages. Quel est le problème? Cette frontière, elle est parfaitement délimitée, elle a fait l'objet d'accords dès la fin du 19e entre les Anglais et les Allemands, puis avec les Français, confirmé en 2002 par la Cour internationale de justice entre le lac Tchad et le golfe de Guinée. Donc le problème, c'est pas l'origine coloniale de la frontière. Le problème, c'est que personne n'exerce dans ces régions, nord-est du Nigeria, nord du Cameroun, personne n'exerce de contrôle. Les fonctions régaliennes de base, surveillance, contrôle, sécurité, gestion des marchés transfrontaliers, ne sont pas assurées. Il y a des parcs nationaux, mais à ma connaissance, c'est pas aux éléphants de jouer le rôle de garde-frontière.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler, Michel Fouché, d'une nouvelle vidéo du groupe Boko Haram diffusée lundi. On y voit notamment le chef du groupe islamiste, Aboubakar Shekau, et aussi plus d'une centaine des lycéennes enlevées. Ce film a d'ailleurs été montré à leur famille. Reportage de notre correspondante Julie Vandal.
Les noms des jeunes filles sont cités un à un. Au total, 234 lycéennes enlevées à Chibok le 14 avril dernier, soit il y a exactement 30 jours. Sous le grand dôme de Disney, deux pères sont venus témoigner. Révérend Enoch a perdu deux filles. Après un bref moment de recueillement, les discours se succèdent. Ceux de soutien, ceux de critique vis-à-vis des autorités, mais aussi et surtout ceux qui motivent les foules à rester mobilisées. Dans l'assemblée, quelques 200 personnes vêtues d'un t-shirt rouge se sont réunies. Beaucoup de mères de famille anonymes et des membres de la société civile. Parmi eux, Djibril Ibrahim, ex-directeur du Centre pour la démocratie et la gouvernance.
Le fait que 300 filles sont élevées parce qu'ils veulent étudier est quelque chose qui est choquant pour tout être humain. Mais je pense aussi qu'il y a le drame d'un État qui ne fait rien qui est absent. Et les citoyens de ces pays se demandent, où donc est l'État nigérien? Pourquoi il ne fait pas son boulot? Voilà une autre chose qui nous motive beaucoup.
Prochaine étape, la poursuite des sit-out quotidiens et une marche de protestation jusqu'à Aso Rock, la résidence du président nigérian Goodluck Jonathan. Julie Vandal, Abuja, RFI.
Et dans nos journaux, on vous parle du sommet sur le Nigeria à Paris aujourd'hui, samedi, suite d'une semaine d'actualité en Centrafrique. Et la mort mardi de notre jeune consoeur photographe Camille Lepage, âgée de 26 ans, assassinée dans des circonstances qui restent peu claires. Un nouveau nom dans la liste des journalistes morts en faisant leur travail, qu'ils soient français ou centrafricains, pour ne pas parler des autres. Reportage mercredi de Laurent Corot et Boris Vichit à Bangui.
Il n'y a pas foule en ce début d'après-midi à la Maison de la Presse. Peu de monde et une humeur sombre. La mort de Camille Lepage arrive tout juste après l'assassinat de deux journalistes centrafricains. Eddy Stéphane Douali travaille au quotidien Le Citoyen. Camille, dit-il, fait partie de ceux qui ont permis au monde d'ouvrir les yeux sur son pays.
Je me sens vraiment touché. Très touché par le décès de cette consoeur. Elle ne mérite pas ça. C'est grâce au travail des journalistes que la communauté internationale a pu se rendre compte de la gravité de cette crise.
Cyrus Emmanuel Sandy est le président du GEPIC, le groupement des éditeurs de la presse privée. Et selon lui, la mort de Camille Lepage vient rappeler à quel point les journalistes centrafricains eux-mêmes peuvent être fragiles face aux hommes armés.
À l'intérieur du pays, un journaliste ne peut pas écrire ce qu'il veut, simplement parce que le simple fait de dire la vérité va gêner ceux qui agissent mal, qu'il s'agisse des Séléka ou des Anti-Balaka. Et du coup, le risque d'être ciblé, d'être assassiné est réel.
Hier, le groupement des éditeurs a publié un communiqué dans lequel il condamne l'assassinat de Camille Lepage et appelle les forces internationales à accélérer le désarmement des groupes en Centrafrique.
Et l'enquête sur la mort de notre consoeur Camille Lepage associe des gendarmes français, des policiers de la force africaine, la MISCA, mais aussi des éléments de la police centrafricaine. J'ajoute dans l'actualité africaine qu'une jeune femme chrétienne a été condamnée jeudi à la peine de mort par pendaison pour apostasie au Soudan. Née d'un père musulman, Meriam Meya Ibrahim Ishag a été condamnée en vertu de la loi islamique en vigueur au Soudan depuis 1983 qui interdit les conversions sous peine de mort. Suite d'une semaine d'actualité, je vous voyais vraiment réagir, Michel Fouché, en écoutant le reportage de Julie Vandal au Nigeria.
Oui, sur l'absence de l'État. C'est quand même invraisemblable qu'on n'ait pas retrouvé ces presque 250 malheureuses lycéennes.
Alors, il faut rappeler que la communauté internationale, entre guillemets, a offert ses services, des Américains, des Français, notamment.
Oui, ça, un mois après. Oui. Mais c'est la question de l'État. Bon, c'est vrai que ce mouvement qui est appelé Boko Haram, Boko en Haoussa, en fait, en langue Haoussa, ça vient de, c'est la modification de boucle livre, et Haram, c'est un mot arabe, en fait, il veut dire interdit. Mais le vrai nom de ce mouvement, il est en arabe, hein, je le livrais en français, c'est la communauté des disciples de la tradition de l'islam pour la prédication et la guerre sainte. C'est tout un programme. C'est un programme radical, salafiste, qui a commencé en 2002, et qui interdit aux musulmans de participer à des activités politiques ou sociales liées aux occidentaux. Par exemple, pas le droit de voter aux élections, pas le droit de porter des chemises ou des pantalons, pas le droit de recevoir une éducation laïque, et naturellement, toute opposition absolue à l'instruction des femmes. Et ce mouvement considère que les autorités du Nigeria sont impies et corrompues, à raison de plus lorsque le président vient du Sud est un chrétien. Mais au Nigeria, il y a un problème de déséquilibre entre le nord et le sud. Les richesses sont au sud, le littoral, le pétrole du golfe de Guinée, les grandes villes, le pays Yoruba, etc. Et le nord est délaissé. Le nord est délaissé. Et donc, le problème, c'est que ce mouvement recrute. Il y a des cadres qui sont des criminels, mais ils ont de la main d'œuvre. Et l'attitude de l'armée est souvent extrêmement brutale, mais les combattants... voilà. C'est un mouvement qui se situe d'abord au Nigeria, mais enfin, il y a des connexions possibles, d'où le sommet d'aujourd'hui à Paris.
Oui.
C'est essentiel d'éviter des connexions entre tous ces mouvements.
Des connexions avec des mouvements de la bande du Sahel.
Oui, oui, mais tout à fait, tout à fait.
Et vous pensez que ce sommet pourrait déboucher sur quelque chose
ou... Oui, ben, au moins, c'est la première fois que la France, explicitement, prend en compte, dans son périmètre de sécurité, le nord du Nigeria. C'est-à-dire, en fait, le sud du Niger, qui est un État que nous protégeons. Le sud du Niger servant un peu de sanctuaire pour le mouvement Boko Haram, notamment dans la petite ville de Diffa, juste en face de Maïdougouri, qui est la capitale de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Tout ceci, c'est à la frontière du Tchad et du Cameroun.
Niger qui est important pour la France, on le sait, ne serait-ce que pour son uranium.
Pas seulement pour ça, parce que c'est un pays ami. C'est un pays ami avec un président tout à fait remarquable, et c'est un pays qui plutôt bien géré, même si c'est un peu instable, mais c'est un pays pauvre, et frontalier de la Libye, du Mali. C'est un pays très important, comme le Tchad, comme le Cameroun, puisque le Cameroun, c'est la voie d'accès pour les troupes françaises en direction de la RCA. On voit bien comment ces mouvements salafistes peuvent se connecter les uns et les autres, et ça nous oblige à avoir une politique africaine globale.
Le Cameroun, le Nigeria, Michel Fouché, ça me fait penser à ce contentieux autour de la presqu'île de Bakassi. Ça me fait penser à ce que vous dites dans ce livre, Les frontières africaines. Il y a eu beaucoup de règlements de différends via la Cour internationale de justice sur ces questions de frontières africaines.
J'en ai identifié 8 depuis les indépendances. Et dans le cas de Bakassi, donc, c'est l'application de l'arrêt de la Cour de 2002. Et en 2008, le Nigeria accepte d'évacuer les populations nigérianes de la péninsule de Bakassi, parce que le Nigeria, sur le plan international, peut se conduire parfois comme un pays responsable, surtout qu'il est candidat aux Nations Unies, au poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Là, c'est un très bon exemple de mise en œuvre de décisions de la Cour internationale de justice. C'est vrai que les compagnies pétrolières ont un peu poussé pour qu'on ait des délimitations claires des blocs pétroliers. Et puis, la démarcation sur le terrain est en cours, mais enfin, c'est une frontière fait 1300 km de long, donc c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, on voit très bien, encore une fois, l'enjeu du contrôle de ces passages.
Sept jours en Afrique.
Et dans une pénible litanie, Michel Fouché, nous devons revenir sur la mort de nouveaux immigrants méditerranéens, cette fois au large des côtes libyennes, des dizaines de victimes. Correspondance régionale de Marine Casalis.
Macabre découverte sur les plages de Garabouli, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale libyenne. Sur la côte, les gardes ont ramassé les corps de dizaines de migrants qui rêvaient d'aller en Europe. Les sacs en plastique blanc contenant les corps jonchaient la plage. Leur rêve s'est échoué en Libye quand leur embarcation surchargée a sombré à quelques kilomètres du pays qu'ils pensaient quitter pour l'autre rive de la Méditerranée. Selon les autorités libyennes, la plupart des migrants à bord étaient d'origine subsaharienne. Chaque année, quand la météo est propice, les bateaux quittent les côtes libyennes vers l'Europe. Chaque année, à la même époque, beaucoup ne survivent pas au voyage organisé par des passeurs. Quelques jours avant le départ, ceux-ci apprennent à un ou deux passagers à manœuvrer. Ils demandent ensuite jusqu'à plus de 1500 euros pour le voyage. Avec le faible contrôle des côtes libyennes, les bateaux ne se cachent plus. Certains partent même du centre-ville de Tripoli. Mais les plages de Garabouli restent un des points de départ les plus importants dans l'ouest de la Libye. Samedi, le ministre de l'Intérieur par intérim a menacé l'Europe de faciliter le transit des clandestins si l'Union européenne n'aidait pas son pays à contrôler les flux.
Suite d'une semaine d'actualité, il nous faut parler cette fois, pour conclure notre voyage, Michel Fouché, de l'avion du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Un nouvel avion présidentiel qui aurait coûté entre 17 et 20 milliards de CFA, soit environ 30 millions d'euros. Cet achat a déclenché un vif débat à Bamako, alors que semblait-il le FMI, qui soutient financièrement le pays, n'était pas au courant. Bamako jeudi, David Bachet.
Nous avons appris cet achat après coup, en lisant la presse. Le représentant du FMI au Mali, Anton Hope de Beck, est en colère. Son institution finance dans le pays un programme de facilité de crédit représentant 30 millions d'euros sur 3 ans. Lancé en décembre dernier avec un premier décaissement de plus de 6 millions d'euros, ce programme prévoit des missions de contrôle régulières pour que le FMI puisse s'assurer que les engagements pris par Bamako sont respectés, notamment en termes de bonne gouvernance. La première évaluation a eu lieu en mars dernier. Aucune information n'avait alors été donnée sur l'achat de ce nouvel avion présidentiel. Le prochain décaissement du FMI était initialement prévu pour juin, mais des discussions sont en cours avec les autorités maliennes, explique le chef du FMI à Bamako. Nous leur posons des questions sur l'achat de cet avion, sur les procédures qui ont été suivies. Nous demandons aussi des explications sur un contrat d'armement passé avec le ministère de la Défense, un contrat qui s'élève à plus de 150 millions d'euros. Au palais présidentiel de Koulouba, on ne souhaite faire aucun commentaire. Si le FMI n'est pas content, c'est au ministère des Finances qu'il doit s'adresser.
Et les donateurs qui aident le Mali se sont réunis jeudi à Bamako pour faire le point sur les promesses de dons à ce pays faites il y a un an, promesses de plus de 3 milliards d'euros d'aide.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique. Merci pour vos messages. En voici trois avant de retrouver Michel Fouché. Bonjour à Fiacre Gabiro qui nous a écrit de Bangui pour nous dire à quel point il était attristé par l'assassinat de notre jeune consoeur photographe Camille Lepage. Il reproche à la force Sangaris et aux Nations Unies de ne pas protéger suffisamment la population. Un autre message parmi d'autres. Bonjour, je vous écris depuis la RDC dans le territoire de Mbanzangundu. Et j'aime votre émission parce qu'elle nous rappelle l'actualité qu'on n'a pas eu le temps de suivre tout au long de la semaine. Merci, c'est signé Glory Matondo. Enfin, je salue Kadim Dieng. J'adore l'émission sur les routes du week-end, écrit-il. Lui qui voyage entre Dakar et son village, Ndioko. Un salut à nos nombreux auditeurs du Sénégal. Merci de votre fidélité. Bonjour aussi à vous qui nous écoutez dans toute l'Afrique. Je vous devine de l'autre côté du micro.
Sept jours en Afrique.
Et nous retrouvons donc Michel Fouché pour ses frontières d'Afrique. Vous expliquez dans le livre que finalement les Africains se sont appropriés leurs frontières.
Oui, bien sûr. En plus, là où...
Très concrètement, parfois.
Oui, parce qu'elles sont subverties. On circule beaucoup en Afrique. Migration journalière, migration pendulaire de travail, énormément de villes frontalières. Depuis, j'en ai calculé, il y en a, on va, d'ici 15 ans, il y aura 75 villes frontalières en Afrique de l'Ouest. Énormément de marchés, notamment autour du Nigeria, ce qu'on joue sur les différences de change. Il y a des micro-stratégies sur l'approvisionnement, les différences de qualité. Et c'est assez vital, notamment dans les périodes de sécheresse. Donc il y a une espèce d'intégration régionale par le bas, avec le rôle notamment des femmes pour organiser ce commerce à longue distance. Alors la difficulté, c'est lorsque vous avez des coupeurs de route ou des commandants de zone qui font payer des péages privés, lesquels ne sont pas réinvestis dans des voies de circulation correctes. Mais les Africains contournent ça avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y aura pas de carte de crédit, on va directement verser tout ça avec son mobile, dont la batterie sera rechargée soit avec du photovoltaïque, soit avec son vélo. Et donc, il y a une inventivité tout à fait extraordinaire, je dirais, à la base. On le voit très bien quand on va dans le Sahel.
Alors, il y a une exception, le Soudan, parlons du Soudan, notamment du Soudan du Sud. On sait qu'il y a en ce moment un conflit, un cessez-le-feu qui a du mal à être respecté. Quasiment d'ailleurs, l'a-t-il été, on se le demande. Vous avez eu une formule tout à l'heure qui m'a intrigué, le Sud-Soudan créé par Hollywood.
Non, parce qu'il y a eu tout un lobby avec quelques acteurs qui ont soutenu cette cause de population massacrée par le régime du président Béchir au nord. Non, ce qui est compliqué dans tout ça et qui mérite à la fois prudence et réflexion, c'est que on vit encore les séquelles de la traite négrière intra-africaine. On voit ça très bien en République centrafricaine. C'est le combustible qui est derrière cette violence entre les musulmans et les chrétiens, c'est-à-dire les gens protégés des esclavagistes par les pères blancs au début du XXe siècle. Même chose au Soudan. Mais on voit très bien les contradictions internes du Sud, où là aussi on doit retrouver sans doute des contentieux liés aux pratiques de l'esclavage dans le bassin du Nil. Et puis il y a un autre élément tout à fait fondamental, c'est le choc permanent, votre émission en parlait tout à l'heure, entre les éleveurs et les sédentaires, notamment entre les peuls et les paysans.
Oui, pour la frontière notamment entre le Tchad et
bien entendu, parce que tous ces gens-là circulent en suivant les pluies qui commencent en ce moment. Et les enjeux fonciers sont tout à fait fondamentaux. Il n'y a pas que les dimensions identitaires. Vous avez toujours des dimensions économiques. Même quand il n'y a pas de pétrole, il y a des pâturages. Et comment on gère ça dans un contexte de très forte croissance démographique? Je vois d'ailleurs que le dernier rapport de l'International Crisis Group sur la République centrafricaine est consacré non pas aux questions identitaires ou politiques, mais aux questions du pastoralisme. Alors, c'est ça la bonne approche, c'est le rôle de la géographie.
On y revient, la géographie,
Michel
Fouché.
Bien sûr, elle est explicative.
Le Sud-Soudan, on pourrait parler aussi de l'Érythrée. Autre modification de frontières avec l'Éthiopie.
C'est une ruine absolue, c'est un grand camp de concentration dirigé par un alcoolique qui a un grand pouvoir de nuisance, mais tous les gens qu'on retrouve sur les côtes nord de la Libye viennent soit du Niger et d'Agadez, soit d'Érythrée. On les retrouve d'ailleurs à la frontière du Sinaï avec Israël. Pareil pour les Somaliens. Donc vous avez quand même des foyers de crise sont des foyers de départ. Alors en Libye, avec l'anarchie ambiante et le commerce des migrants par les milices, c'est tout à fait catastrophique, parce qu'il y a entre 200 et 600 000 personnes qui stationnent. En attendant de passer, donc les Italiens ne pourront plus faire face. Ça, c'est une question tout à fait centrale. Il est temps que la Libye se stabilise. Il faut trouver des formules politiques adéquates pour dépasser un peu les conflits entre les milices.
Merci Michel Fouché. Votre ouvrage publié au CNRS Édition s'intitule « Frontières d'Afrique pour en finir avec un mythe ». Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, 17h10 heure de Paris et 18h10 pour l'Afrique. Nous parlerons justement, Michel Fouché, de l'esclavage avec un grand spécialiste de la question, l'historien Olivier Grenouillot, auteur il y a quelques années d'une histoire des traites négrières. Il vient de publier « Qu'est-ce que l'esclavage ?», un livre publié précisément chez Gallimard. À ne pas manquer demain, dimanche 17h10, heure de Paris, une émission que vous pouvez podcaster comme les autres, les précédentes depuis 4 ans, sur le site de la radio www.rfi.fr. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.